Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche, actualité de la popularisation, de la vulgarisation de l'histoire. Débuter un nouveau petit précis d'histoire à l'usage du politique avec Marie-Pierre Rey, professeur à Paris 1, historienne spécialiste de la Russie, qui nous racontera l'élection d'un très jeune tsar. Puis l'historienne Claire Jude de la Rivière, maître de conférence en histoire à l'université Toulouse Jean Jaurès, nous présentera la grande manifestation d'histoire à venir qui s'ouvre la semaine prochaine à Toulouse avec pour thème du silex au big data. Frédéric Matonti, dans la deuxième partie de cette émission, elle est politiste, professeur à Paris 1, nous présentera la grande plateforme internet qui se lancera le 15 juin prochain, Politica, et qui souhaite passer le politique à l'épreuve des sciences sociales. Elle nous expliquera comment cette plateforme souhaite renouveler les approches du politique ou de la politique. Enfin, Stéphane Michonneau, spécialiste de l'histoire et de la mémoire de la guerre d'Espagne, commentera en toute fin d'émission le vote du Parlement espagnol intervenu hier et qui demande que la dépouille de Franco quitte la balie de los caídos.
Allez-y, madame, mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres ?
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles ?
Non.
Oui, mais pour les recompter après. Un lassin et on met le mot. D'accord.
Ça fait. Il est 20h, le scrutin est clos.
Bonjour Marie-Pierre Rey.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous présenter une élection un peu particulière qui peut-être ne s'est pas renouvelée avant longtemps.
Oui.
L'élection d'un jeune tsar, c'est donc le 21 février, c'est une date qui m'importe parce que c'est la date de ma naissance, le 21 février, mais 21 février 1613, je ne suis pas si vieux, l'élection de Michel Romanov.
Alors, on a peu coutume d'associer l'histoire de la Russie à l'idée d'élection du fait de la nature absolutiste du régime autocratique. Et pourtant, c'est bien une élection qui vit naître et s'installer, la dynastie des Romanov en 1613. Alors pourquoi et comment ? Au début de l'année 1613, la Russie traverse depuis près de 15 ans une crise profonde. La crise est d'abord dynastique. En 1598, le tsar Fiodor Ier, fils d'Ivan le Terrible, est mort sans descendant. Boris Godounov, son beau-frère, déjà régent et premier ministre, a alors pris le pouvoir, mais il est contesté. Sa mort brutale, qui survient en 1605, suscite un déchaînement de rivalités et des luttes entre prétendants au trône, qui finissent d'installer le pays dans ce que l'on a appelé le temps des troubles. Alors que la peste, de mauvaises récoltes, la famine frappent durement le pays, la crise devient diplomatique et militaire. En 1610, des armées polono-lituaniennes sont entrées dans Moscou, et depuis lors, elles occupent le Kremlin, avec le soutien d'un certain nombre de boyards. Un prince polonais catholique a même été élu tsar, menaçant ainsi l'indépendance du pays et son identité. Face au danger, un sursaut national prend forme au printemps 1612. En août, des troupes russes, réunies par le prince Pojarski, assiègent Moscou. Et en octobre, avec le soutien de milices populaires, le Kremlin est libéré de la garnison polonaise, massacrée sur place. À cette date, le danger polono-lituanien est donc écarté. Mais le trône russe est toujours vacant, ce qui ne peut que susciter de nouvelles convoitises. Il faut donc en finir et sortir de l'impasse. D'où la décision de recourir au Ziemski Sabor, l'Assemblée de la Terre, un équivalent de nos états généraux, réunissant les membres de la vieille noblesse, les boyards, le haut clergé, ainsi que des représentants des négociants, citadins et paysans libres, pour élire un nouveau souverain. En janvier 1613, 7 à 800 délégués confluent vers un Kremlin délabré par les combats. Ils improvisent des campements de fortune dans des salles glaciales et pour siéger, ils s'installent dans la cathédrale de la Dormition. D'entrée de jeu, tous les prétendants étrangers sont écartés et moins d'une dizaine de noms sont retenus, dont celui de Pojarski. Mais le libérateur de Moscou est de petite noblesse, ce qui ne convient pas. D'autres noms circulent, sans s'imposer davantage. Et le 7 février, sur proposition de l'ataman des Cosaques du Don, émerge le nom de Michel Romanov. Il est le fils de Filaret, le métropolite de Moscou, qui a donné des gages de patriotisme. Adversaire des Polonais, il a en effet été fait prisonnier par ces derniers et il se trouve toujours en captivité. Michel Romanov est aussi le petit-neveu de la première épouse d'Ivan le Terrible, ce qui assure ainsi un lien symbolique et une forme de continuité avec la dynastie précédente. Enfin, il est jeune, il a 16 ans, et il n'a trempé dans aucune des luttes qui ont déchiré le pays depuis 15 ans. Toutefois, cette proposition ne fait pas encore l'unanimité. Or, le vote doit être unanime. Michel Romanov est inexpérimenté, il est chétif, il sait à peine lire et écrire. L'idée va pourtant faire peu à peu son chemin. Et le 21 février, après avoir jeûné 2 jours pour obtenir le soutien de Dieu dans leur choix, les membres du Zemski Sabor vont à l'unanimité voter pour le jeune homme proclamé tsar. Mais à cette date, le processus n'est pas encore achevé, car l'intérêt, c'est qu'il n'a pas été consulté, n'a pas donné son accord, et personne ne sait où il se trouve, ce qui est quand même embêtant. Parti sur sa trace, une délégation du Zemski Sabor le retrouve un mois plus tard au monastère Ipatiev, près de Kostroma, où l'adolescent s'est réfugié avec sa mère pour échapper aux Polonais. Ni l'un ni l'autre n'accueille la nouvelle avec joie et enthousiasme, c'est le moins que l'on puisse dire. Craintif, Michel n'a aucun goût pour le pouvoir. Quant à sa mère, elle est bien consciente des dangers qui entourent cette élection. Une élection toujours contestée par les Polonais, dans un pays ravagé et appauvri. Mais ils finissent par se ranger aux arguments et on pourrait même dire aux supplications des délégués qui, en outre, s'engagent à tout faire pour hâter la libération de Filaret, le père de Michel. Le 2 mai, Michel et sa mère font leur entrée dans Moscou, toutes les cloches de la ville carillonnant sur leur passage. Et ils s'installent dans un Kremlin restauré en grande hâte pour les accueillir. Le 22 juillet, à la veille de son 17e anniversaire, Michel est couronné tsar dans la cathédrale de l'Assomption. Né d'une élection profane, le pouvoir du premier des Romanov est désormais sacré.
Merci beaucoup Marie-Pierre de nous avoir raconté cette histoire de l'élection d'un tsar. Ça ne s'est pas beaucoup reproduit, les élections de tsar.
Non, de fait.
Il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y en a une le 21 février 1613 et qu'on y élit donc Michel Romanov comme tsar. Et puis peut-être aussi comme celui qui a fondé la dynastie des Romanov qui s'est interrompue beaucoup plus tard,
voilà,
en 1917.
Avec la révolution de février.
Merci beaucoup Marie-Pierre Rey. Et maintenant, nous avons en duplex depuis les studios de Toulouse, de Radio France à Toulouse, Claire Jude de la Rivière. Bonjour Claire Jude de la Rivière.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Vous êtes maître de conférences en histoire à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous avez travaillé entre autres sur Venise au XVIe siècle. C'est une partie de vos travaux. Et en tant qu'enseignante, donc dans cette Université de Toulouse, vous êtes une des conceptrices d'une grande manifestation d'histoire qu'on attend avec impatience le week-end prochain. Ça commence le 18 et ça se termine le 21. Et ça s'appelle l'Histoire à venir, avec pour sous-titre, pour cette édition-là, parce que c'est une manifestation qui doit se renouveler chaque année désormais à Toulouse, du silex au big data. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette manifestation qui, il faut le rappeler, France Culture est partenaire de cette manifestation, mais surtout vous avez conçu ce programme avec le théâtre Garonne, avec la librairie très connue Ombre Blanche, avec les éditions Anacarsis et donc votre université Toulouse. Jean Jaurès, qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce projet et ce programme, en l'occurrence Claire Jude de la Rivière?
Alors notre idée, c'était de proposer au public toulousain, et espérons-le un peu plus largement, au public de la région, un véritable festival des idées, un lieu pour venir dialoguer avec les chercheurs, mais aussi des artistes, des écrivains, autour de l'histoire. Donc de créer un lieu en même temps de partage du savoir, un lieu de dialogue, un lieu de rencontre, un lieu d'expérimentation aussi. Dans l'histoire à venir, il va y avoir des ateliers qui vont permettre au public de s'expérimenter au travail de l'historien. Et donc c'était tout cela que nous voulions offrir au public toulousain.
Alors donc il y a de très grands noms qui vont se presser, donc des noms de l'Université de Toulouse, mais aussi venant d'un peu partout, puisque Robert Danton, qui était notre invité il y a très peu dans la Fabrique de l'Histoire, sera présent. Lui qui était donc professeur et qui a dirigé les bibliothèques de Harvard, mais il y aura également des gens comme Patrick Boucheron, Mona Ozouf et François-Xavier Fauvel, bien d'autres qui seront présents ici, des préhistoriens, des historiens. Et ce projet de travailler autour de cette question donc du silex au big data, pourquoi cette question du big data pose-t-elle des questions aux historiennes et aux historiens aujourd'hui, et pourquoi il faut le mettre au centre d'une discussion comme celle de l'histoire à venir pendant plusieurs jours la semaine prochaine à Toulouse, Claire Jude de la Rivière?
Le titre même de notre manifestation, l'histoire à venir, montre notre volonté de proposer des réflexions pour l'avenir. C'est-à-dire de dire, nous historiens, qui sommes effectivement des spécialistes du passé, nous avons pourtant beaucoup de choses à dire et à proposer en termes de réflexion, en termes de méthode, en termes de savoir critique, aux grands enjeux contemporains qui se posent. Et l'un de ces enjeux, aujourd'hui, nous semble-t-il, c'est celui du big data, celui de ces très très grandes bases de données qui sont en train d'être constituées un peu partout, en particulier à partir de nos traces numériques, à partir de nos usages d'Internet, ce que nous achetons, ce que nous consultons, ce que nous regardons. Et il nous semble que s'il y a bien une compétence que les historiens, les archéologues ont acquis au fil des années, au fil des siècles de la constitution de nos disciplines, c'est une compétence sur ce qu'est une donnée, sur comment la traiter, comment la rassembler, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle peut dire. Et donc, montrer que justement de cette compétence, nous avons un véritable savoir-faire et des idées à proposer aux politiques, aux citoyens, au public sur la façon dont nous pouvons interagir avec ces bases de données, aider à leur constitution, comment nous pouvons avoir notre mot à dire sur ce que doivent être ces big data et surtout quel contrôle citoyen nous pouvons essayer de proposer aux grandes firmes qui sont en train de les constituer.
Alors donc il y a une volonté civique, citoyenne, pourrait-on dire, dans cette grande manifestation de Toulouse que vous avez coordonnée avec beaucoup d'autres, Claire Jude de la Rivière. En quoi diffère-t-elle, selon vous, cette manifestation de nombreuses autres manifestations autour de l'histoire qui se pressent chaque année? On peut citer évidemment Blois, mais aussi Pessac pour le film d'histoire, ou encore très récemment donc Genève avec les rencontres d'histoire de Genève et d'autres moments où l'histoire est au cœur de discussions et de présentations auprès d'un public beaucoup plus large que le public des seuls historiennes et historiens, donc de ce que fait l'historien aujourd'hui à partir des archives. Quelle est la différence, selon vous, de votre manifestation par rapport à celle qui existe déjà, Claire Jude de la Rivière?
Alors, bon, d'une part, on n'est pas nécessairement, je pense qu'on s'inscrit aussi dans un grand mouvement, et je crois que toutes ces manifestations que vous avez citées, et il en existe bien d'autres en Europe qui sont un peu, justement, qui se construisent sur le même format, nous avons tous cette même volonté d'offrir, de partager ce que nous faisons à l'université, à un public plus large. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'on se rapproche et on s'inscrit dans un spectre large de ces festivals des idées. Alors là où peut-être nous avons une spécificité, c'est que nous sommes à Toulouse, qui est connue comme un pôle universitaire et de recherche connu mondialement hein, pour ses travaux, bien sûr en sciences humaines et sociales, mais aussi en sciences de l'ingénieur, en sciences du vivant, ces fameuses sciences dures. Donc peut-être que nous, ce que nous avons essayé de mettre en place, d'où notre titre, encore une fois, l'histoire à venir, c'est un dialogue entre les sciences humaines et sociale et les sciences de la nature ou les sciences du vivant. C'est essayer de montrer que justement, il peut y avoir là, dans un lieu comme Toulouse, où justement il y a une compétence reconnue et importante, il peut y avoir de ce dialogue des effets en regard, en miroir, des disciplines vers d'autres, de nouvelles thématiques de recherche. Et là, je crois que beaucoup des manifestations que nous allons proposer pendant ces 4 jours reflètent justement l'intérêt des historiens. Pour le big data, nous l'avons dit, mais par exemple pour la conquête de l'espace, pour le numérique, pour le livre numérique, donc tous ces enjeux qui sont en train de se poser, dont nous ignorons encore d'ailleurs quelles seront les évolutions dans les 5, 10, 15 années à venir, mais justement essayer d'être partie prenante de ces débats-là.
Oui, il y a par exemple tous les débats autour de ce qu'on appelle les humanités numériques. Vous aurez plusieurs des participants à ces journées, dont un Toulousain, Sébastien Poublan, qui reviendront sur ces questions des humanités numériques. Qu'est-ce que les humanités numériques et comment cela change peut-être la façon dont on travaille en tant qu'historienne et historien aujourd'hui, Claire Jude de la Rivière?
Ça, je pense que c'est une vraie question et c'est une vraie question en débat. Et nous espérons justement que les différentes rencontres que nous proposerons permettront de discuter entre nous, de discuter avec le public sur ce que le numérique, Internet, les moyens de calcul extraordinaires que nous possédons aujourd'hui, comment tout ça est en train de transformer notre façon de faire de la recherche et pour autant, je crois, en tout cas c'est mon point de vue, ne transforme pas fondamentalement la façon dont nous pensons. L'invention de l'imprimerie au XVIe siècle a créé des effets de masse de documentation accessible à tous et pourtant il y a une forme de méthode, de raisonnement qui reste la même. Donc c'est très intéressant de réfléchir justement à la façon dont la technique est en train de modifier notre accès aux sources et la façon dont nous pouvons traiter ces sources et tout autant restant conscient que justement ce qui compte c'est bien sûr le raisonnement, la méthode, le questionnement critique que nous pouvons faire à ces documents. Donc l'intérêt des manifestations que nous proposerons autour en particulier du travail des archivistes, plusieurs archivistes des archives départementales de Toulouse viendront réfléchir à la façon dont on archive aussi le numérique. Qu'est-ce qu'on fait de ces archives éphémères que nous sommes en train de produire? Comment on les conserve? Pourquoi? Comment aussi? Avec quel support? De la même façon, plusieurs débats sur la question des images. Qui produit les images? Comment va-t-on les conserver? Donc toutes ces questions vont nous porter au cœur de ce débat, effectivement, sur les humanités numériques et la transformation éventuelle de nos pratiques de recherche, mais aussi de production du savoir.
Et par exemple, il y aura un labo d'histoire organisé par Francisca Einburger, par Emmanuel Pérez-Tisserand et Sébastien Poublon, autour de l'historien 2.0, comment écrire l'histoire à l'ère de l'Internet. Et précisez-nous peut-être aussi la particularité de cette manifestation qui s'appelle donc l'Histoire à venir à partir du 18 mai prochain, la semaine prochaine à Toulouse. Claire-Jude de la Rivière, c'est qu'il y a, et ça on s'y attend, des conférences, des débats, ça c'est assez classique, mais ce que vous appelez des labos d'histoire, des ateliers et des impromptus par exemple, ainsi qu'un petit salon du livre donc, qui permettra à des auteurs d'ouvrages récents de venir discuter avec leurs lecteurs. Mais c'est quoi ces labos d'histoire, ces ateliers, ces impromptus et en quoi cela rend peut-être cette manifestation originale en l'occurrence Claire-Jude de la Rivière?
Alors nous avons beaucoup travaillé sur les formats en effet. Notre idée c'était de pouvoir proposer une rencontre avec le public et pour ça de réfléchir à la modalité de cette rencontre. Donc vous l'avez dit, il y aura de grandes conférences, plus classiques dans leur format. Mais ensuite nous avons trouvé intéressant de proposer effectivement ce qu'on appelle labo d'histoire. Un labo, ce sera deux ou trois chercheurs qui viendront discuter avec le public de la façon dont ils font de la recherche. Parce que ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est d'insister sur cette question de méthode, de traitement des données. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chercheur et juste quelqu'un qui voudrait imposer ses opinions? C'est bien que nous avons derrière tout notre travail une façon de procéder. Et on voudrait la montrer, cette façon de procéder. Donc les labos, ce sera montrer nos méthodes, mais aussi nos désaccords. On va faire parler des historiens qui ne sont pas toujours d'accord sur la façon dont il faut procéder ou sur la façon dont il faut interpréter telle ou telle source. Ensuite, il y aura ce qu'on a appelé des ateliers où là, un public restreint, des petits groupes d'une vingtaine de personnes pourront faire de l'histoire. Faire de l'histoire aux archives, faire de l'histoire au jardin botanique avec Antonella Romano qui montrera ce qu'est l'histoire des sciences in situ au milieu de la collection du jardin d'histoire naturelle à Toulouse ou Emmanuel Pérez-Tisserand que vous avez cité qui va montrer comment à partir de son expérience, sa compréhension de la conquête de l'Ouest, elle peut, en dialoguant avec un spécialiste de la conquête de l'espace, essayer de faire des comparaisons qui vont nous être utiles pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette conquête de l'espace. Donc ces ateliers, ça sera vraiment mettre la main à la pâte ou aller aux archives départementales pour ouvrir des dossiers d'archives, apprendre à faire le travail de l'historien.
Et les impromptus?
Alors enfin, les impromptus, ça c'était une façon plus ludique de faire de l'histoire. On aura par exemple la chance, vendredi soir, vendredi 19 mai, d'avoir une performance autour de l'histoire mondiale de la France, qu'a dirigé Patrick Boucheron, avec plusieurs des auteurs de l'histoire mondiale, qui seront sur scène. Et Julie Clarini, du Monde des Livres, les soumettra à un certain nombre de questions pour justement leur faire parler de ce travail d'historien, mais de façon plus ludique, plus festive. Donc il y aura cette performance-là. Nous aurons aussi samedi soir un très beau spectacle de l'artiste suisse Christophe Meyerhans autour justement de la question de la démocratie et de la nécessité d'écrire une nouvelle constitution. Il écrira avec le public une nouvelle constitution. Voilà, vraiment un spectacle au cœur des débats actuels. Donc ces formats aussi plus inventifs pour faire venir d'autres publics. Les étudiants de l'université Jean Jaurès, par exemple, organiseront un jeu de piste dans la ville, un jeu de piste autour de l'histoire de Toulouse, pour justement faire venir les lycéens, les étudiants à la découverte de leur ville.
Alors on l'a compris, donc des nouvelles formes, des nouveaux formats, avec la volonté d'inscrire cette manifestation au Clergé de la Rivière dans une durée, c'est-à-dire que il a fallu monter ce qui était le premier numéro ou le numéro zéro de cette manifestation, l'histoire à venir pour cette année, mais vous avez, j'imagine, l'intention de poursuivre et de développer cette manifestation les autres années. Cette année, on aura des très grands noms, je l'ai dit, Mona Ozouf, Marcus Rediker, Alban Binça, mais aussi Patrick Boucheron, je l'ai cité, Antoine Lilti, François Hartog, Yvan Jablonka, qui seront là, avec une particularité aussi, peut-être, cette idée que vous avez fait vôtre, cette idée que la préhistoire appartient aussi à l'histoire, et donc vous aurez des préhistoriens avec vous.
Oui, on a la chance à Toulouse d'avoir une très belle école de préhistoire. François Bon, Sandrine Costamagno, Nicolas Valderon qui seront là pour nous présenter justement ce qu'ils font et comment la préhistoire, c'est vraiment une période passionnante parce que effectivement, à partir de miettes, de traces souvent ténues, ils arrivent à proposer des interprétations, des réflexions tout à fait passionnantes. Sandrine Costamagno viendra montrer un film qu'elle a fait sur la façon dont on tuait les bisons à la préhistoire et comment elle essaie de reconstituer ce qu'elle appelle la cuisine préhistorique à partir des restes, des ossements qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc, réintégrer justement la préhistoire, l'archéologie, l'histoire de l'art à la pratique de l'histoire, c'est aussi montrer comment la donnée, ce n'est pas que l'archive, et bien sûr aussi avec les historiens contemporains, la question des archives orales, de la mémoire orale, tout ça, c'est une façon pour nous, justement, de montrer la multiplicité des données et comment, évidemment, cela nous parle à nous, citoyens, aujourd'hui, et nous pose aussi la question, quelles traces laissons-nous et quelles traces laisserons-nous pour les générations futures, et qu'est-ce qu'il faut, comment faut-il les conserver? Donc, toutes ces questions qui sont au cœur du débat citoyen aujourd'hui.
Oui, donc, en particulier, vous venez de le citer, ces miettes d'histoire donneront lieu à un spectacle, donc une discussion à Labo d'Histoire le samedi 20 mai, samedi prochain, de la semaine prochaine, entre 20h30 et 22h, avec François Bon, Sandrine Costamagno, François-Xavier Fauvel, Anne Loerf et Nicolas Valderon. Il y aura aussi, et on ne peut pas tout citer, des conférences piétonnières, des choses comme cela, 65 événements, conférences, débats, ateliers participatifs, performances, dans toute la ville de Toulouse et pour tout le monde. C'est comme ça que vous l'annoncez, en l'occurrence, Claire Jude de la Rivière. Merci d'être venu nous présenter cette histoire à venir. On peut trouver sur le site de la Fabrique le lien qui conduira à toute cette manifestation entre le 18 et 21 mai, donc à Toulouse. Et bonne chance pour ce festival qui débute, mais qui est extrêmement prometteur. Merci beaucoup, Claire Jude de la Rivière.
Merci à vous.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Le 10 mai, c'est une date qui compte dans l'histoire de notre pays. Le 10 mai, c'est la volonté qui avait été celle de ceux qui avaient instauré cette journée. C'est la commémoration de l'esclavage, des traites et de l'abolition. Alors, je voulais, en cette journée, non pas simplement rappeler l'histoire, elle est connue, mais dire que longtemps elle a été enfouie, occultée, avec sans doute cette tentation de l'effacer. Il a fallu du temps et beaucoup de combats pour faire en sorte qu'enfin cette mémoire puisse être pleinement reconnue par la République. Il y a d'abord eu la loi du 30 juin 1983, qui a institué jour férié, la date de proclamation de l'abolition de 1848 dans chaque département d'outre-mer. Car les populations de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, elles, n'avaient jamais oublié ce moment plein d'émotion et de ferveur où leurs ancêtres étaient devenus immédiatement des citoyens et des citoyennes français.
C'était le 10 mai dernier, donc cette semaine, et on a reconnu la voix de François Hollande. Nous avons choisi cet extrait d'une archive, parce que c'est déjà une archive, pour ouvrir avec vous, Frédéric Matonti, bonjour.
Bonjour.
La deuxième séquence, la troisième séquence de cette émission de ce vendredi. Vous sortez à peine de la promotion de votre travail qui s'appelle Le genre présidentiel et qui s'intéresse en particulier, en tant que politiste, vous êtes intéressé à la question de la place des femmes en politique et de la parité en politique dans cet ouvrage qui est paru très récemment aux éditions La Découverte. Et vous venez nous annoncer donc une nouvelle plateforme. On est dans l'ère du numérique, on l'a dit avec Claire Jude de la Rivière auparavant, une nouvelle plateforme qui s'appelle Politica. Mais puisque vous êtes spécialiste aussi de tout ce qui concerne les liaisons entre histoire et mémoire et politique, en l'occurrence, ce moment est un moment intéressant. Et c'est pour ça qu'on vous a fait venir juste après l'élection présidentielle. Ce moment est un moment intéressant de réflexion sur les bouleversements entre mémoire et politique et les usages de la mémoire dans la politique. En l'occurrence là, c'était le 10 mai dernier. Quand François Hollande dit le 10 mai, c'est une date importante, on peut penser qu'il pense à un autre 10 mai, celui de 1981. Et c'est vrai que la semaine dernière, dimanche dernier, le nouveau président élu nous a rappelé qu'il y avait une histoire liée à ce 10 mai avec cette manifestation dans la cour du Louvre. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela, Frédéric Matonti, en tant que politiste, analyste justement de ces questions de symbolique en politique ?
Alors c'est très difficile d'analyser ce qu'on a vu à chaud dans cette séquence. D'abord parce que on voit bien qu'on est dans un très grand bouleversement des usages politiques habituels
de l'histoire.
Et effectivement, alors c'est très, moi j'ai entendu François Hollande et j'ai entendu 10 mai, j'ai pensé 10 mai 81 et puis j'ai raccordé un petit peu. J'ai évidemment regardé Emmanuel Macron et je l'ai vu sous la pyramide. J'ai pas exactement compris quels usages il voulait faire, mais j'ai cru comprendre qu'il voulait raccorder ce qui relevait de l'ancien régime et ce qui relevait de la nouveauté qu'il instaurait. Puis il y avait ce petit clin d'œil à François Mitterrand. Tout ça a été assez compliqué. C'était sans doute tellement compliqué que certains y ont vu des symboles très étranges.
Oui, on voit sur Internet effectivement combien des délires autour des Illuminati et des francs-maçons au pouvoir avec la pyramide se sont développés.
Les 666.
Et 666, effectivement aussi, puisqu'il a eu 66,06% des suffrages à son élection. Mais vous voulez dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'usage mémoriel de l'histoire et de tous ces symboles dans une France qu'on pourrait dire postmoderne est assez complexe. Nicolas Sarkozy est passé par là. Il a lui-même complètement défilialisé les héritages. Il a récupéré des personnages comme Jaurès dans son panthéon personnel pour certains de ses discours. Et on voit bien aujourd'hui combien le grand magasin des accessoires est ouvert et chacun s'y sert.
Alors en même temps, on peut dire ça parce qu'effectivement il y a une tentative de Nicolas Sarkozy assez nette d'instrumentaliser l'histoire qui est allée jusqu'à ce projet de musée. En même temps quand même, quand on regarde ce qui s'est passé sous le quinquennat qui vient de se dérouler, on voit bien qu'il y a des marqueurs forts de ce qu'est l'identité de gauche. C'était très sensible par exemple au moment de 14-18, enfin des commémorations, et le fait même de quasi, oui, de réhabiliter les mutins, c'était quand même un marqueur, je trouve, parfaitement clair. Là, on va voir avec le quinquennat qui s'ouvre si les références historiques seront aussi claires, nettes, s'il y a des usages particulier que fera le prochain président. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile de trouver des symboles qui parlent à tous, surtout dans une période où on voit bien que tout le mythe républicain a eu besoin d'être réinstauré, non seulement parce qu'il y a eu des événements évidemment dramatiques. Donc voilà, je pense qu'on est dans une petite période d'incertitude de ce point de vue.
Oui, et donc de tremblement et peut-être un peu de stupeur devant ce qui se passe et ce qui risque de se passer. Si on se rapproche de votre sujet, ce pourquoi vous êtes ici, le 15 juin prochain sera lancée donc une plateforme. Vous allez nous expliquer ce qu'est une plateforme qui s'intitule Politica, P-O-L-I-T-I-K-A, le politique à l'épreuve des sciences sociales. Tout est dit dans ce sous-titre, mais néanmoins, il faut peut-être l'expliciter pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette plateforme qui donc a été mise en place par le laboratoire d'excellence TEPSIS, qui veut dire transformation de l'État Politisation des sociétés, institution du social avec l'école des hautes études en sciences sociales, pas rien là où vous enseignez vous-même, l'ENA, le CFJ, le centre de formation des journalistes, Paris Sciences Lettres donc et les investissements d'avenir. Qu'est-ce que ce Politica et quelle est sa fonction?
Alors le point de départ de Politica, c'est en effet le LABEX. Hein. Les LABEX, c'est des dispositifs extrêmement compliqués, relativement novateurs, et qui, en l'occurrence, là, rassemblaient environ 14 laboratoires de sciences sociales, qui sont ceux de l'EHESS et de Paris 1 principalement, ainsi que de l'ENA, et qui sont des laboratoires dont les disciplines sont l'anthropologie, l'histoire, les sciences politiques, la sociologie, et qui travaillent sur des aires culturelles et des aires géographiques très vastes, c'est-à-dire on peut dire que ça embrasse des Amériques jusqu'à l'Asie en passant par l'Afrique. Notre idée, c'était qu'on vit, vous le savez, une crise de l'édition en sciences sociales, et puis en même temps qu'il y a, si on peut le dire en positif, des nouveaux modes de lecture. Et en particulier qu'un des modes de lecture les plus évidents, c'est d'aller se renseigner en passant par Internet.
Et donc souvent par Wikipédia.
Alors notre idée, c'était que pour à la fois répondre à cette crise de l'édition en sciences sociales et ce nouveau mode de lecture, il fallait inventer une plateforme de qualité, c'est-à-dire un site de qualité.
Gratuit,
bilingue, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, dans lequel on va trouver à la fois des notices sur des sujets donnés par des auteurs qui sont des auteurs de référence, et en même temps toute une série de documents qui peuvent être des documents bruts, qui peuvent être de l'archive, qui correspond à ce que font en vrai hein, les sciences sociales quand elles travaillent, les historiens quand ils travaillent, et puis aussi beaucoup de documents qui sont des choses filmées. Hein. Il y a toute une série d'entretiens avec
des chercheurs,
des entretiens biographiques qui sont souvent très intéressants parce que chaque chercheur a choisi son interlocuteur. Donc il y avait un petit côté filial aussi dans ces choix qui est souvent très intéressant. On découvre des chercheurs qui racontent de manière personnelle comment ils se sont intéressés à certains sujets. Et donc ça donne une espèce de... Ça fait aussi de ce site, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, un espèce de lieu de mémoire.
Et un lieu effectivement qui se rapproche de ce que disait Claire Jude de la Rivière tout à l'heure à propos de la manifestation de l'histoire à venir, à savoir cette idée que les chercheurs doivent montrer... ouvrir un peu la boîte, d'une certaine façon, la boîte noire de la recherche et montrer comment ils travaillent, comment ils utilisent les documents, comment ils s'approchent justement de leur objet d'étude et pour que les citoyens qui les regardent, et en l'occurrence qui les regarderont sur cette plateforme Politica, comprennent les ressorts de la recherche d'une certaine
façon. Alors, qu'ils comprennent les ressorts, je dirais, biographiques aussi. Hein. On choisit pas des sujets n'importe comment quand on travaille sur quelque chose. Ça correspond souvent à des questions profondes qu'on se pose intimement, mais ça correspond aussi à des exigences qui sont les exigences du moment. Comme le disait très bien votre interlocutrice tout à l'heure, c'est pas parce qu'on travaille sur un objet très lointain dans le temps que ça ne parle pas pour autant hein, du présent, voire du futur. Donc ça, c'était très important. Montrer aussi comment on fabrique de la recherche. Il y a dans le site, il y a une partie qui s'appelle ressources et qui est centrée sur quelque chose qu'on a inventé en cours dans ce LABEX, qui sont les ateliers, c'est-à-dire vraiment des chercheurs qui travaillent sur un sujet très émergent, qui tâtonnent, qui discutent, qui peuvent se tromper et qui vont montrer hein, sur cette plateforme comment ils font. Alors il y a par exemple des choses sur de Denis Péchanski qui travaille sur les attentats ou bien il y a tout le débat autour de la traduction de Mein Kampf. Voilà, c'est des choses qu'on verra. Et puis il y a aussi une partie, je dirais, très vive également, qui est la partie dite instantanée, où là, on a demandé à des chercheurs spécialistes d'une question d'intervenir à chaud. Lorsqu'on est dans une phase d'incertitude, de crise, etc. Donc, on y trouve hein, des interviews d'une quinzaine de minutes sur l'Ukraine, sur la Turquie. On voit tout de suite hein, l'urgence de ce genre de choses. Et puis, il faut dire aussi, les notices dont je parlais, en tenant compte de ce que sont les modes de lecture, on a choisi que on puisse utiliser toutes les ressources du multimédia. C'est-à-dire que quand vous avez une ressource, quand vous avez, par exemple, une notice sur la socialisation politique, on va y trouver des films, des documents, de l'infographie, si besoin. Donc, autrement dit, quelque chose de très vivant pour le lecteur. J'ajoute, alors vous ne l'avez pas vu, qu'elle est extrêmement belle. On a vraiment travaillé esthétiquement, d'abord pour qu'elle soit très navigable, mais pour qu'elle soit techniquement extrêmement belle.
Oui, parce qu'effectivement, il faut préciser à tous ceux qui seraient alléchés par cette plateforme qu'elle ne sera annoncée et présentée que le 15 juin prochain. Mais néanmoins, c'est important que de le dire, parce qu'on a tout de suite envie d'y aller voir. On a l'impression tout de même, Frédéric Matonti, qu'il y a là une volonté des chercheurs de parler en direct à un public. Et donc de se passer des intermédiaires que nous sommes les journalistes ou les producteurs de radio ou de télévision, ou que sont les éditeurs d'une certaine façon, les éditeurs de magazines, pour pouvoir d'une certaine façon raccourcir le cycle. Est-ce que je me trompe dans cette façon de faire, c'est-à-dire de devenir un centre de ressources directement du producteur de savoir qui est le chercheur, jusqu'à un consommateur entre guillemets de savoir que serait le citoyen qui s'intéresse à la question du politique?
Alors raccourcir le cycle, sans doute. Se passer des intermédiaires, certainement pas. D'ailleurs, on a travaillé, c'est pas un hasard, avec le CFJ, donc le Centre de formation des journalistes, parce que ils étaient les seuls capables, avec leurs étudiants, de nous aider à mettre en scène ce site pour la partie la plus filmée. Des éditeurs, nous commençons à avoir notre, enfin, nous avons quelques contacts pour la suite, parce que là, on est dans une phase de lancement, de manière à avoir des partenaires éditoriaux. Donc, ça n'est pas l'objectif, hein, de se passer des intermédiaires. En revanche, l'objectif, c'est clairement de raccourcir le temps, ça c'est vrai, de raccourcir par rapport au temps du livre, où on sait bien que bon,
la publication des colloques, qui prend un certain temps, des choses comme ça.
C'est extrêmement lent, ça peut être 3 ans, 4 ans après, et puis de permettre effectivement de montrer sans doute au public qu'il n'y a pas que les sciences dures, je dirais, je déteste le mot sciences dures, mais bon, qu'il n'y a pas que les sciences dures qui ont des choses à dire sur le présent, mais que les sciences sociales, les sciences humaines en général, ont beaucoup de choses à dire et peuvent éclairer les événements, le présent. C'était plutôt ça l'idée, montrer vraiment l'utilité des sciences sociales.
Qu'est-ce que les passés futurs ?
Enfin, les passés futurs, c'est à l'origine justement un atelier animé par Sabina Loriga qui s'appelait Les usages présents du passé. Et là, je dirais, c'est la réussite de cet atelier, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en une revue. Qui se trouve être une revue en ligne, donc au cœur de Politica, et qui donc régulièrement publiera ses propres numéros en ligne sur le site.
Oui, donc il y a, parce que quand on parle de plateforme, on ne sait pas très bien ce que ça signifie. Il y a donc, c'est un lieu foisonnant, pourrait-on dire, qui a d'ailleurs l'intention d'être plus important encore au fur et à mesure du temps.
Bien sûr.
Frédéric Matonti, où on trouvera des revues en ligne, des vidéos, des discussions, des ateliers, des documents, donc avec cette idée qu'il y aura là, pour celui qui s'intéresse aux politiques. D'ailleurs, comment fait-on la différence entre le politique et la politique ? On vous pose souvent la question. Mais
oui, mais je n'ai jamais su y répondre en réalité. Donc la politique, on peut dire, c'est l'activité politique politicienne, pas du tout au sens péjoratif, hein, mais la politique.
Suivre la création
d'un
nouveau gouvernement, par exemple.
Voilà, c'est la plus professionnelle, mais le politique serait c'est plutôt le rapport à la cité, pour le dire relativement rapidement. Mais parmi les auteurs, hein, de Politica, il y a des gens qui s'occupent du politique et de la politique, donc. Voilà.
Et donc, quand je dis que vous avez l'intention de vous développer, de faire de ce lieu un lieu de référence, on l'a compris, en l'occurrence, Frédéric Matonti, vous signez l'éditorial de ce lancement avec Richard Reichmann. Vous voulez aussi, j'imagine, passer des passerelles, créer des passerelles avec d'autres pays, parce que vous avez dit c'est en français et en anglais, et ça sera peut-être bientôt en espagnol.
Alors le choix du bilinguisme, alors c'était d'abord pour tenir compte évidemment de l'internationalisation de la recherche, c'est une évidence. pour le fait que nous puissions demander à des chercheurs étrangers de publier sur le site, c'est une évidence également, mais aussi pour montrer, je dirais, la French touch, c'est-à-dire, bon, on a un savoir-faire des sciences humaines et des sciences sociales françaises qu'on ne connaît pas assez parce que, effectivement, la barrière de la langue est telle que parfois nous sommes peu lus à l'étranger, et c'était aussi le fait de pouvoir le montrer, ce savoir à l'étranger.
Et l'espagnol, c'est pour bientôt ?
On espère.
Merci beaucoup, Frédéric Matonti, d'être venu nous présenter Politica, Politika, donc plateforme que l'on trouvera en ligne à partir du 15 juin prochain. Donc patientez, si vous voulez, d'ici un mois pour pouvoir aller y voir et montrer, découvrir donc le foisonnement de ces initiatives donc organisées autour de cette plateforme. Merci beaucoup. Nous avons au téléphone d'ailleurs un spécialiste de l'Espagne et de l'histoire espagnole en l'occurrence, Stéphane Michonneau, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir répondu aussi rapidement à mon appel qui était très tôt ce matin, donc de venir commenter à l'antenne de France Culture au téléphone cette nouvelle donc qu'on a appris hier en fin de journée, à savoir que, à la surprise de beaucoup de gens peut-être, le Parlement espagnol s'était réuni et avec l'abstention du Partido Popular, donc le parti donc qui dirige l'Espagne ces temps-ci de Monsieur Rajoy, eh bien les parlementaires espagnols s'étaient réunis pour demander que la dépouille de Francisco Franco quitte la Balie de los Caídos. Vous êtes spécialiste vous-même en tant qu'historien de la mémoire de la guerre d'Espagne. Qu'est-ce que cela dit et pourquoi cette décision, qui n'est pas encore validée définitivement, est importante dans le contexte actuel et qu'est-ce qu'elle dit de la longue histoire de cette mémoire de la guerre d'Espagne ?
Alors c'est une affaire compliquée parce que ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça. Alors c'est assez étrange effectivement de voir qu'aujourd'hui c'est voté. C'est pas tout à fait une surprise parce que la Commission constitutionnelle avait déjà adopté un texte similaire le 8 mars. Donc on savait que la chose était proposée par le Parti socialiste en accord avec Podemos et en accord avec le parti de centre droit Ciudadanos. Mais c'est effectivement une surprise dans le sens où ça met fin à une polémique qui dure maintenant en Espagne depuis 1975 et qui est de savoir qu'est-ce que l'on fait de cet immense mausolée qui comprend presque 34 000 corps qui sont les ossements de ceux qui sont tombés pour la cause franquiste. Un immense monument qui a été inauguré en 1959, extrêmement impressionnant, qui se situe, vous voyez, à 40 kilomètres au nord de Madrid, creusé dans la montagne, une basilique de 250 mètres de long, une croix, la plus grande croix du monde qui fait 150 mètres de haut. Et depuis 1959, il y est le corps de José Antonio Primo de Rivera, qui est le fondateur de la Falange. Il a été transféré là en 1959. Et puis, à la mort de Franco, le roi, Juan Carlos, décide d'y mettre également le corps de Franco. Décision d'ailleurs assez curieuse, parce qu'elle aurait très bien pu rejoindre son épouse, qui est dans un cimetière du nord de Madrid. Et depuis, donc, à la croisée du transept, on trouve le fondateur de la Falange et le dictateur. C'est évidemment une source de polémique infinie, comme vous pouvez bien l'imaginer. Qui donc, en principe, devrait prendre fin.
Oui, alors c'est une raison aussi de polémique parce que effectivement, on sait combien depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ces débats sur la mémoire de la guerre d'Espagne sont récurrents dans la société espagnole, mais aussi peut-être parce que justement, ce bâtiment n'a pas été construit de la Balie de los Caídos par n'importe qui. Elle a été construite par des prisonniers, et il y a là aussi effectivement une sorte de volonté de mettre fin à cette mémoire-là, parce que ceux qui étaient prisonniers ont fabriqué le monument aux vainqueurs de la guerre d'Espagne aussi, Stéphane Michonneau.
Oui, absolument. Dès que Franco prend la décision de construire un grand ossuaire national en 1940, qu'il choisit le site, qui se situe à quelques pas de l'Escorial et qui se situe géographiquement au centre de la péninsule, immédiatement, les travaux, qui ont duré 19 ans, ont mobilisé effectivement une main-d'œuvre républicaine, prisonnière, avec un certain nombre de décès, entre 15 et 18. C'est un travail absolument gigantesque qui a été mené par ces prisonniers républicains. Donc, enlever Franco, c'est finalement cesser de consacrer ce lieu à la mémoire du franquisme, peut-être tenter d'en faire un lieu de réconciliation et réintégrer effectivement la mémoire des victimes républicaines qui ont participé à la construction du Valle de los Caídos.
Oui, alors donc cette question effectivement est extrêmement débattue. Où en est-on d'ailleurs de tous ces débats sur la mémoire de la guerre civile espagnole? On sait que le gouvernement Zapatero avait été celui qui avait porté très haut ces questions de débat, mais aussi les citoyens eux-mêmes, des associations de citoyens qui voulaient retrouver les corps de ceux qui avaient été enterrés de façon sauvage, pourrait-on dire, pendant la guerre civile. Est-ce que ces débats sont toujours aussi forts, ou est-ce que d'une certaine façon, cette possibilité de sortir le corps de Franco de la Valle de los Caídos signe une sorte de fin de parenthèse dans cette longue histoire de la mémoire de la guerre d'Espagne en Espagne?
Je n'en suis pas certain, parce que en vérité, cette loi qui a été effectivement promue par le pouvoir socialiste prévoyait déjà à l'origine le transfert du corps de Franco. C'est une loi également qui prévoyait que ce lieu soit interdit à toutes sortes de manifestations néo-franquistes. Donc il y avait déjà eu une tentative de neutraliser ce lieu. Et puis ensuite, lorsque les gouvernements conservateurs sont venus au pouvoir, en vérité, cette loi a cessé d'être appliquée. Les fonds qui étaient destinés à l'exhumation des fosses communes, par exemple, n'ont plus été votés. Et donc, cette loi est restée, en quelque sorte, un petit peu en suspens. Et donc, je crois, il me semble, que le vote d'hier signifie qu'il y a un retour à une volonté d'appliquer la loi à la lettre. Et ce qui est peut-être surprenant, c'est que cette fois-ci, le Parti populaire ne s'est pas opposé. Il s'est abstenu, mais il ne s'est pas opposé. Et d'ailleurs, le texte qui a été voté hier mentionne très explicitement une application à la lettre de la loi de la mémoire historique. Donc, on est peut-être dans une période de relance de cette loi qui a été en quelque sorte pas appliquée, quoi, un petit peu suspendue.
Oui, et il faut peut-être expliquer la position du Partido Popular, qui est donc le parti qui soutient le gouvernement en place, à savoir celui de Mariano Rajoy. Il se veut l'héritier de la démocratie naissante à la mort de Franco, mais néanmoins, il n'a jamais réussi à rompre avec une lointaine, peut-être, mémoire franquiste. C'est cela, Stéphane Michonneau?
Oh, c'est peut-être un petit peu
exagéré
ce que vous dites. Disons que le Parti populaire est un grand parti de centre droit, extrêmement varié, mais qu'il y a à l'intérieur du Parti populaire effectivement un certain nombre de nostalgiques, mais ce n'est certainement pas la majorité du parti. Maintenant, la politique a été plutôt, utilisant l'argument qu'il ne fallait pas rouvrir les blessures, ne pas rouvrir les cicatrices de la société espagnole. Le parti a presque systématiquement pris le parti effectivement de s'abstenir plutôt que de prendre position. Il n'y a pas eu là volonté, tu vois, je crois qu'il y a un consensus autour de la sortie du corps de Franco du Valle de los Caídos, mais c'est une abstention prudente aussi pour ne pas froisser une partie de son électorat qui est peut-être beaucoup plus radicale. Vous savez, en Espagne, il n'y a pas d'extrême droite constituée
en
parti, mais on peut le dire aussi parce que une partie de l'opinion d'extrême droite est à l'intérieur du PP. Ça marche un petit peu comme la droite allemande, si vous voulez. Donc, il faut toujours faire attention et ne pas froisser cette partie de l'opinion qui est très petite, mais qui existe. Ça, c'est le certain.
Frédéric Matonti, qui est encore présent dans le studio, vous a écouté avec beaucoup d'intérêt, Frédéric Matonti.
Oui, il me semble qu'il y a en même temps à Madrid une question, peut-être pas qu'à Madrid d'ailleurs, une interrogation sur débaptiser les dernières rues qui portent les noms des généraux franquistes. Et puis, j'avais aussi une interrogation, qu'est-ce que va devenir le corps?
Oui, ça ne peut pas être comme le corps de Pétain qui avait été enlevé par des pétainistes à un certain moment depuis le cimetière de l'Île-Dieu. Il va bien falloir qu'il trouve un endroit où se reposer définitivement. Ces deux questions, brièvement, Stéphane Michonneau.
Alors oui, à Madrid, le pouvoir la mairie est au pouvoir de Podemos, et là effectivement la mairesse a souhaité de débaptiser la plupart des noms. Alors ils sont énormes à Madrid, il y a énormément de noms qui font référence au franquisme. J'ai l'impression que après une volonté assez déterminée, tout ça est un petit peu arrêté, hein. Je suis pas très sûr que ça aboutisse, cette histoire-là, parce que là il y a une forte résistance même à Madrid. Pour ce qui est du corps de Franco, normalement la famille va le récupérer et il retrouvera son épouse au cimetière de Ningo Rubio, qui est au nord de Madrid, à côté d'El Pardo. Hein. Encore faut-il que l'église, qui est propriétaire en grande partie et qui gère le Valle de los Caídos, donne son accord. Or, lorsqu'il y a eu une réunion de la commission en 2011, un certain nombre d'experts qui préconisaient la sortie du corps de Franco, l'église, elle, n'était pas présente dans la commission, elle s'est retirée. Alors, la loi qui a été votée hier n'est pas une loi, c'est une recommandation et le gouvernement peut très bien ne pas l'appliquer. Donc que fera Rajoy et que fera l'église, puisque finalement, au bout du compte, c'est l'église qui est propriétaire du lieu, donc il faut tout de même que l'église donne son accord. La troisième question, j'ai oublié.
Non, c'était les deux questions, effectivement, c'était à savoir ce qu'il allait advenir des rues qui portent encore les noms des franquistes historiques dans Madrid. Vous avez raison de dire qu'il faut modérer nos ardeurs sur le nouveau baptême de ces rues, en l'occurrence Stéphane Michonneau. Et puis donc, cette question finale de ce qu'il allait advenir là du corps de Franco, eh bien, on va attendre la suite de ces événements. Merci d'avoir répondu aussi spontanément et aussi rapidement à notre requête, donc de commenter cette actualité qui est tombée hier soir, donc la demande du Parlement espagnol de retirer de la Valle de los Caídos le corps de Francisco Franco. Merci beaucoup Stéphane Michonneau.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Élise Le nous a accompagnés à la technique à Paris et nous remercions nos confrères de Radio France à Toulouse d'avoir accueilli dans leur studio Claire Jude de la Rivière, qui nous a parlé en ouverture de cette émission de la manifestation qui se tiendra le week-end prochain à Toulouse et qui s'intitule L'Histoire à venir. Nous avons évoqué aussi avec Frédéric Matanti le site, la plateforme Politica, qui sera en ligne à partir du 15 juin prochain. Françoise Camard était à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlons du bac en évoquant toute la semaine avec les autres émissions de France Culture, que sont par exemple les chemins de la philosophie ou les émissions de sciences, ou encore l'émission de littérature de l'après-midi, la compagnie des auteurs, en évoquant les programmes du bac. Ça s'appelle Bac 2017, mention France Culture. Et puis vous le savez, l'histoire continue sur France Culture ce week-end. Et demain à 10h, l'émission Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet s'interrogera sur la météorologie. Est-ce une science vraiment, avec Anouchka Vazak? C'est à 10h demain.